Bien, donc aujourd'hui, on va voir des sujets, un sujet qui est un peu moins glamour qu'un certain nombre d'autres chapitres. C'est pas pour ça que c'est pas important. Ça va être un sujet sérieux, un sujet de réflexion sur l'avenir. Il s'agit de la réhabilitation, de la remédiation, de la dépollution, de tout ce qu'il faut faire pour assumer l'héritage, donc l'héritage du passé, l'héritage du présent, et pour laisser donc aux générations futures donc une terre qui soit encore tout à fait présentable. Alors les deux premiers transparents, je les ai marqués en transition parce que c'est en transition entre le cours de la dernière fois où on donc consacré donc à la durabilité de la ressource et le cours d'aujourd'hui qui est consacré à la réhabilitation notamment. Donc des terrains qui ont été utilisés au niveau minier. Et j'ai voulu sortir comme exemple un exemple qui est vraiment tout à fait édifiant, qui est heureusement assez exceptionnel et qui montre justement ce qu'il ne faudrait pas faire en fait. Donc il s'agit d'une île du Pacifique, Nauru, comme vous voyez ici. Donc c'est une toute petite île, c'est le deuxième plus petit pays du monde après le Vatican. Et c'est un pays qui a était très fortement exploité. Vous voyez cette photo aérienne, ça ne fait pas rêver, ce n'est pas une île du Pacifique telle qu'on les imagine en fait, ce n'est pas du tout un atoll, c'est une curiosité géologique, c'est une île totalement solide, je dirais, totalement pleine en tout cas, il n'y a pas de lagon au centre. Et il y a eu un processus géologique tout à fait original que l'on ne retrouve qu'en quelques exemplaires dans le Pacifique, qui a été un nourrissage par les eaux océanique profonde de ce massif calcaire par des eaux phosphatées. Et donc, ça a amené des gisements de phosphate exceptionnels qui ont été en plus enrichis avec les oiseaux, avec le guano des oiseaux. Ça a donné une petite contribution, mais c'est quand même surtout donc, cet apport océanique massif dans une unité qui est totalement originale. Encore une fois, on n'est pas sur un volcan, on est vraiment sur un ensemble sédimentaire et qui a permis donc, justement ces mouvements de convection et la formation de ces phosphates de calcium qui ont été utilisés donc pour faire des engrais, qui ont donc été utilisés depuis des dizaines d'années et en amenant des richesses absolument énormes. Vous voyez, on est sur des milliards de dollars dont on aurait pu attendre à peu près la moitié de bénéfices. Et ça a donné donc à Nauru, à ses habitants, le deuxième revenu par habitant au monde il y a à peu près une quarantaine d'années avec des... Bon, c'est avec vraiment un niveau de vie tout à fait exceptionnel et plein de choses qui étaient prises en charge par l'État. Donc on ne va pas du tout rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout le but de ce cours. Simplement, c'est pour dire voilà la situation actuelle. Nauru est un État en faillite. Le Premier ministre a annoncé en septembre qu'il ne pouvait plus payer les fonctionnaires. Ils ne peuvent plus payer les hôpitaux. Ils ne peuvent plus payer le dessalement de l'eau. Et on est effectivement avec, donc vous voyez, 30 millions de dollars, on est à 1%. Vous avez 1% du budget d'il y a 40 ans. Donc on est sur un pays qui est tenu par la solidarité internationale, moyennant quelques arrangements. Et donc voilà, une situation fragile liée au fait que la ressource est épuisée. Donc voici la production de phosphate. Même si vous êtes loin, ça c'est zéro. Zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de production de phosphate depuis de longues années. Et ce qui reste, et c'est en ça que ça fait la transition avec le cours d'aujourd'hui, eh bien c'est ce paysage dévasté. Donc avec ces eaux océaniques qui remontaient pour percoler le massif de calcaire ont déposé des phosphates mais de façon un peu irrégulière. Donc vous avez des pitons rocheux un peu partout. Et ces pitons rocheux, c'est du calcaire. Entre les calcaires, il y avait le phosphate. Et donc ça vous laisse ce paysage désolé qui ne permet pas donc de démarrer par exemple de l'agriculture. Et on commence à peine à envisager de pouvoir réhabiliter ce paysage catastrophique, ce paysage lunaire en fait. Mais dans un pays qui est en faillite, évidemment, ça va prendre très très longtemps. Alors il reste un tout petit peu dans le creux, il y a encore un peu de phosphate, c'est pour ça que j'ai marqué exploitation de gisements mineurs. Ils espèrent pouvoir exporter les calcaires, mais vous voyez, on est quand même loin de tout, donc ça va coûter très cher. Et surtout, le grand espoir, c'est de pouvoir reconstruire un sol, refaire pousser des végétaux et donc pouvoir redémarrer une vie normale. Mais ça, pour l'instant, c'est un peu un rêve. Donc c'était pour dire, attention, la ressource est parfois limitée, parfois extrêmement limitée, et il faut gérer les arrivées financières en les intégrant dans le temps et non pas en les regardant en temps réel. Enfin, c'est toujours facile de tirer une morale quand il s'agit des autres et quand il s'agit du passé. C'est peut-être moins facile de prédire l'avenir. Voilà, donc on transite naturellement, justement après avoir vu donc ces paysages laissés par des exploitations minières et qui n'ont pas été très respectueuses du futur, on arrive sur ce que j'avais intitulé dès le début, donc sur le programme, sur les nouveaux horizons. Les nouveaux horizons, ce sont pour nous les nouveaux métiers. Ce sont les challenges qui se posent donc aux géologues. Initialement géologue minier, qui regarde comment on exploite des gisements et qui maintenant va se trouver confronté avec d'autres problèmes, des problèmes posés par la réhabilitation des sites souvent lourdement contaminés, on va le voir dans un instant, laissés par l'exploitation minière, de nouvelles façons de produire, le recyclage. Alors le recyclage, on va dire, c'est en partie d'autres métiers, mais on les intègre effectivement dans cette approche matière première. Et matière première, justement, on commence maintenant à voir les matières premières secondaires, les matières premières recyclées, qui viennent compléter, et on verra que bientôt, elles vont se substituer donc, aux matières premières normales, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce que l'on voyait, par exemple, dans les cours précédents, sur les minerais. Donc ça, effectivement, c'est dans une optique de durabilité, c'est dans une optique d'économie d'énergie, parce que de toute façon, on n'aura pas l'énergie pour sortir tous les métaux que la croûte terrestre contient, donc de toute façon, on n'y arrivera pas, même si ces éléments existent chimiquement. Donc là, ce sera le but du prochain cours sur la criticité, sur les métaux critiques, criticalité plutôt. Ces métaux critiques qui ont posé des problèmes et qui risquent effectivement régulièrement de poser des problèmes, notamment pour le développement des nouvelles technologies. Alors, lorsqu'on parle de réhabilitation, c'est parce qu'on a eu une contamination. Alors, il n'y a pas que les mines qui sont coupables, donc on se révolte évidemment totalement. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, là, les mines sont ici, effectivement. C'était pour resituer, donc ce schéma est un schéma très très simple qui resitue un certain nombre de sources de contamination diffuses ou ponctuelles. Diffuses, ça peut être par exemple l'agriculture, donc au travers d'intrants comme les phosphates ou les nitrates qui vont effectivement augmenter les teneurs dans ces éléments dans les nappes phréatiques, mais aussi avec par exemple des intrants liés à des métaux lourds ou à des pesticides. On va avoir évidemment toutes les contributions liées à l'énergie. Les déchets qui sont des sources énormes de contamination lorsqu'ils ne sont pas gérés, donc ça c'est des choses qui officiellement maintenant n'existent plus, on pourrait presque, en tout cas en France, on pourrait officiellement, en tout cas, mettre une croix ici. Et tout ça, ça va contribuer à la contamination de l'eau. Alors, la contamination des nappes phréatiques, c'est-à-dire de l'eau que l'on va utiliser pour l'alimentation ou pour l'agriculture. Et puis, ça va contaminer, évidemment, les rivières, donc en aval, avec, donc, de temps en temps, effectivement, pas trop pour les métaux lourds, mais par exemple pour les pesticides, effectivement, des événements qui sont extrêmement visibles. Alors, les sites contaminés, les sites pollués, ils sont effectivement regardés, ils sont suivis, ils sont répertoriés. Alors la figure, donc les chiffres sont ici. Vous voyez qu'on a plus de 4000 sites qui sont recensés, ça fait quand même pas mal. Et après, je vais commenter ces deux diagrammes-là, mais ce que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Donc là, c'est au niveau de l'Europe, c'est il y a un peu plus longtemps que ça, donc il y a une petite dizaine d'années. On se trouve donc avec à peu près donc 5 millions de sites pollués, c'est une estimation. Et vous voyez que sur ces sites pollués, ont été dépollués 80 000. C'est-à-dire qu'il en reste encore beaucoup à décontaminer. On sait que même s'il n'y a pas de nouvelle contamination, ce qui n'est peut-être pas totalement garanti, on aura de toute façon du mal, il faudra beaucoup de temps pour décontaminer ces sites-là, si tant est qu'on puisse le faire. Donc c'est ça, ce diagramme-là est un élément de réflexion très important parce que c'est ce qu'on appelle l'aide à la décision. Il faut qu'effectivement le scientifique puisse conseiller, puisse avoir un avis sur quels sont les sites qu'il faudrait décontaminer en priorité à cause de la proximité des habitations, à cause de l'impact sur l'alimentation ou pour des raisons variées, il faut de toute façon faire des priorités. Vous voyez que l'énorme différence entre ce chiffre-là et ces chiffres sur les sites potentiellement pollués donc montre que de toute façon, il faut faire des priorités. Et alors, donc sur ce transparent qui est pas très net sur la projection, ce que l'on voit, c'est que les sites donc qui sont en vert, les couleurs vertes, vous voyez toutes petites ici, en fait, ce sont les sites qui ont été décontaminés, qui sont libres de pollution, et les rouges et les jaunes sont les sites qui sont pollués. Vous voyez donc les grandes régions polluées. Alors ça, c'est tout, attention, hein, c'est tout polluant confondu. Bon, on retrouve effectivement la région de Marseille, le Rhône-Alpes, l'Est, hein, avec l'industrie chimique, et puis évidemment le Nord-Pas-de-Calais et la région parisienne. Donc les grandes régions industrielles se retrouvent ici impactées. Et alors, ce qu'il faut, c'est évidemment associer ce diagramme-là avec le précédent, c'est de dire en quoi ça nous concerne, nous, puisqu'on a, donc on est en train de regarder les matières premières minérales. Eh bien, ça nous concerne au niveau des métaux lourds. Donc, vous voyez que les métaux lourds, ça fait à peu près un quart. Ici, on est au niveau de la contamination des sols. Ici, on est au niveau de la contamination des eaux. Vous voyez que la contribution est un peu plus faible pour les eaux parce qu'une partie des sols est juste, une partie des métaux lourds est justement retenue dans les sols. Et on verra que justement, ça peut être un problème parce que c'est là où ils peuvent passer dans la chaîne alimentaire au travers de la biocompatibilité avec les plantes. Et alors, qui c'est qui paye? Parce que c'est souvent une question qui se pose et c'est une question qui risque de se poser de plus en plus. En France, en tout cas, voilà à peu près la distribution. Et vous voyez, j'ai mis le diagramme sur les dernières années, les choses sont relativement constantes. Donc, le secteur public, effectivement, va contribuer avec l'Europe. Et le secteur privé donne une contribution majoritaire, effectivement. C'est le fameux principe du pollueur-payeur. Donc, on ne va pas analyser ça trop en détail. Ce sont des choses qui seront reprises dans le colloque des 4 et 5 juin, où on aura justement des discussions sur ces aspects économiques du coût de la réhabilitation, non seulement en France, mais dans d'autres pays. Alors, sur les sites miniers, qu'est-ce que l'on voit? Alors, ce que l'on voit, c'est donc l'exploitation minière et l'usine de traitement, on se trouve ici, dans ce paysage-là, justement, on a l'usine qui est ici. Et ce qui sort de l'usine, eh bien, ce sont ces bouts de traitement, par exemple, qui sont relâchés dans ces immenses étendues sur lesquelles on va accumuler donc ces déchets de traitement qui ne sont pas très lourdement contaminés, puisque, par définition, si l'industriel a retiré le métal, il n'y a pratiquement plus de métaux. Simplement que les quantités sont extrêmement importantes et donc, au total, il reste quand même des tonnages significatifs de différents types de métaux lourds. Ça, c'est pendant l'exploitation. Et lorsque l'exploitation est arrêtée, ça, c'est le cas, donc on en reparlera dans un instant, c'est le cas d'une énorme mine au Canada, eh bien, on va demander, effectivement, on demande maintenant plutôt à l'industriel de stabiliser, de réhabiliter et de rendre à la collectivité, le site dont il a bénéficié pendant quelques années. Donc plus ça va et plus effectivement on dit une exploitation minière, c'est l'utilisation pendant une durée limitée d'un espace. On n'oublie pas que cette utilisation est limitée. Ce que l'on demande, c'est qu'après l'utilisation, il faut qu'on retrouve un usage qui ne sera évidemment jamais le même que l'usage de départ. Mais justement, l'aspect positif, c'est de dire à ce moment-là, la collectivité peut décider d'un usage qui serait différent, donc pour faire autre chose que ce que c'était au départ. Alors, autrefois, donc, et vu mon âge, c'est quelque chose que j'ai connu, effectivement, qui était extrêmement fréquent il y a quelques dizaines d'années, n'importe où dans le monde, n'importe où en France, dans le Massif central, en Bretagne, dans l'Ariège, on allait quelque part et on trouvait des anciennes mines. C'était un grand plaisir pour les minéralogistes, c'était l'occasion notamment de trouver justement des minéraux rares, des minéraux bien cristallisés. Et on se trouvait devant des entrées de galeries de minines, on se trouvait devant des haldes, comme ici par exemple, donc ça c'est au Pays de Galles, hein, comme vous voyez avec le nom qui n'est pas facile à prononcer. Et ici on est dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Et donc lorsque l'exploitation s'arrêtait, l'industriel laissait tout en l'état, tout ce qui n'était pas récupérable, tout ce qui coûtait de l'argent, on le laissait rouiller, puis ça allait se débrouiller, on laissait les mines ouvertes, tout était comme ça, et donc petit à petit, ça allait évoluer, il ne fallait pas dépenser un centime pour ça. C'est évidemment totalement fini. Le fait qu'on définit maintenant l'activité minière comme une activité qui est temporaire fait qu'on va prendre en compte l'impact environnemental dès le démarrage, même pas de l'exploitation, mais dès le démarrage du projet. Donc le projet va justement comprendre un budget aussi pour explorer le site, pour mettre en place les méthodes de traitement de minerai, etc. Et on mettra aussi dans le budget le coût de la remédiation et la réhabilitation du site. Donc effectivement la dernière phrase, ça c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à il y a quelques dizaines d'années. Donc la réglementation n'était pas du tout contraignante. Voyez en gros, donc par exemple, c'est pas un très bon exemple parce que c'est une mine de charbon, mais c'est ce que font les collègues britanniques, par exemple, sur une ancienne mine de charbon qui est ici. Voilà, à peu près, donc vous voyez, 2 ans plus tard, bon, on a tout comblé, alors c'est de l'herbe qui pousse rapidement, c'est pour ça que ça fait un bel effet, mais enfin, il y a quand même une grande différence, vous voyez, en 2 ans, on voit quand même une très grande différence entre les deux paysages, c'est maintenant ça qui est effectivement imposé, et non plus de laisser la carrière ouverte à tous les vents. Alors, je vais essayer dans un cours qui est un peu compliqué techniquement et qui correspond, comment dire, ce qu'on va essayer, nous, c'est de voir plutôt un certain nombre, un certain nombre de verrous et de réflexions, plutôt que de regarder dans le détail la succession des techniques qui vont permettre la réhabilitation du sol. J'en mets deux ou trois simplement comme cela, simplement pour se replacer dans l'ensemble du problème, parce qu'effectivement, on va avoir des montants financiers qui seront impliqués, qui vont être importants, et comme je disais tout à l'heure, qui seront approvisionnés, et les impacts humains qui vont évidemment être aussi très importants, puisqu'on va avoir un arrêt de l'exploitation et donc une mise à pied d'un nombre parfois très important de personnes qui travaillaient dans cette mine, peut-être parfois depuis une ou deux générations. Donc on va avoir donc le strict arrêt et puis ensuite le déclassement, c'est-à-dire le fait que l'on n'a plus de mine. Et ensuite, on va, donc là il s'agit simplement de fermer et de détruire tout ce qui est dangereux, de façon à éviter tout problème. Et donc effectivement, on ne pourra plus aller chercher de minéraux sur ces mines-là. Les galeries seront rendues inaccessibles. En général, ce sont les premières choses qui sont bouchées maintenant. Et on va démarrer donc le travail donc de restauration-réhabilitation, qui donc je vais en parler un petit peu plus en détail pendant ce cours. Et ensuite on va maintenir donc une surveillance. Alors ça dépend beaucoup des pays. Donc en France, on a des agences qui vont effectivement suivre de façon indépendante l'évolution à long terme de ces sites sur lesquels il y avait plutôt une exploitation de mines. Donc ça, c'est notamment l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça peut être l'INERIS, dont vous avez eu, vous vous souvenez peut-être, donc probablement de l'exposé de Pierre Touloide, qui est directeur scientifique de l'INERIS, l'Institut des risques industriels, qui était venu justement nous expliquer en quoi eux, justement, étaient impliqués pour le suivre à long terme. Et donc, ça va être un ensemble de méthodes de surveillance pour être sûr qu'avec le temps, le minerai n'évolue pas. Et on verra tout à l'heure que justement, le temps joue contre nous. C'est-à-dire que très souvent, un minerai n'est pas du tout impactant pour la biosphère à court terme parce qu'il est insoluble, donc les métaux qui sont dedans sont totalement contraints. Avec le temps, il va s'oxyder, il va se solubiliser, les métaux seront relâchés dans l'environnement, et parfois c'est 50 ans, 80 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de pollution en cadmium de l'embouchure de la Gironde avec les impacts sur les exploitations d'huîtres, et c'était des affaires qui avaient pris un siècle pour se déclarer et pour contaminer l'ensemble d'un bassin. Donc effectivement, on sait que ce sera à long terme qu'il faudra le surveiller. Ce ne sont pas des activités qui sont lourdes, en revanche, il faut avoir des capteurs qui soient performants et qui soient surtout suivis par des personnes qui vont pouvoir repérer donc toute divergence dans les données. Et alors, un problème spécifique d'un vieux pays comme la France, ce sont les sites orphelins, ce sont ces sites, c'était justement le cas pour cette mine de cadmium, ce sont ces sites qui ont été exploités par des industriels qui ont disparu depuis longtemps. La mine a été fermée il y a 50 ans, il y a 100 ans, l'industriel a évidemment totalement disparu, et c'est ce qu'on appelle un site orphelin, c'est-à-dire qu'il faut effectivement prendre des mesures, parfois même d'urgence, pour mettre en sécurité les populations, mais on n'a plus personne derrière, il n'y a plus de secteur privé, et donc c'est l'État qui doit l'assurer. Et ça, évidemment, c'est un souci financier qui n'est pas nul. Alors, je distinguerai tout de suite deux cas très différents dans la réhabilitation des sites, qui sont d'une part les carrières, donc qui vont nous permettre d'exploiter les matériaux minéraux. Donc, vous vous souvenez probablement de l'exposé qu'Alexandre Sévagène, le directeur d'Imeric Ceramic Centre, nous avait fait. Donc, les kaolins, les calcaires, les gypses, donc tous ces minéraux qui vont intervenir notamment pour le BTP et qui vont concerner des volumes considérables, mais qui ont l'avantage de ne pas s'associer avec des relargages dans l'environnement, en général en tout cas, de métaux qui soient dangereux. Donc c'est un cas qui est tout à fait spécifique, qui est souvent très très visible parce que ces carrières de sable que l'on a par exemple en bordure de rivière ou ces carrières au sens large sont souvent pas très loin des villes et donc on les voit, et lorsqu'elles sont abandonnées, effectivement on y est très sensible. Et là aussi, abandonnées, c'est de moins en moins autorisé. Donc vous voyez par exemple ici en Charente, donc une carrière de sable qui était ici et qui a été réhabilitée, et donc voilà ce que ça donne donc 10 ans après. Donc vous voyez, les durées ne sont pas très longues en fait en général, et on n'a pas trop de Bon, ça se fait, c'est bien géré, c'est de l'ingénierie tout à fait classique. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier sur ces matériaux minéraux, c'est que les volumes extraits par l'homme sont devenus considérables, puisqu'on se trouve en fait avoir une activité humaine qui a en gros l'efficacité de l'érosion terrestre actuelle, on est totalement commensurable. Hein, les deux chiffres sont quand même très voisins, 15 milliards de tonnes, 20 milliards de tonnes, donc on est vraiment très voisin de l'érosion associée donc à l'action de l'eau à la surface de la Terre. Donc l'homme est effectivement un acteur majeur de l'évolution de la surface de la Terre. Un deuxième exemple que j'ai choisi pour montrer justement comment maintenant peuvent se gérer ces exploitations, c'est de dire on ne va pas attendre que la carrière se termine, on ne va pas attendre qu'il y ait des trous partout pour commencer à les remplir. Et donc c'est le réaménagement glissant en fait, c'est-à-dire qu'avec le temps, on va petit à petit réaménager le domaine de la carrière où on ne travaillera plus. Donc, vous voyez donc ici, on retrouve donc le point commun de toutes ces photos qui ne sont pas prises avec le même angle. Le point commun, c'est le village. Et vous voyez que, par exemple, ici, la zone qui a été exploitée ici, eh bien, elle se trouve ici, elle se trouve ici. Donc, elle a été, au bout de quelques années, elle était totalement remblayée et mise en végétation. Et donc, après, on peut regarder sur les autres... les autres composantes du site. Le site a sa géométrie qui change en fait avec le temps. C'est un site qui est très connu. Il a c'est des amateurs de fossiles parce que on est dans le Crétacé inférieur et c'est probablement la plus belle faune de mammifères du Crétacé inférieur en Europe occidentale. On y a même trouvé des dents d'Archéoptérix. Ce ne sont pas des mammifères, mais ce sont des superbes dinosaures volants et c'est vraiment une curiosité paléontologique française. Voilà. Donc ça n'empêche pas que c'est la seule carrière de gypse qui existe dans l'ouest de la France. Elle est très importante économiquement et ça n'empêche pas justement une gestion raisonnable de l'environnement. Alors, la dernière remarque concerne les zones humides. On a en effet une réglementation spécifique pour la sauvegarde des zones humides, qui sont des zones qui sont en danger à cause de l'urbanisation croissante, notamment à proximité des rivières, parce que ce sont des terrains qui sont plans, qui sont donc assez faciles à lotir. Et donc, il y a une réglementation spécifique pour les exploitations qui sont au voisinage de ces zones humides pour leur permettre justement de prendre le relais d'un certain nombre d'espaces naturels qui, petit à petit, se font grignoter par les activités urbaines ou agricoles. Voilà, et donc ça fait souvent... Alors, ça, c'est un autre exemple, donc c'est une carrière de kaolin en Géorgie, où on voit donc ce sont des technologies qui sont vraiment tout à fait bien établies. Donc là, on vient de remblayer donc, une carrière de kaolin. Cette carrière de kaolin, on va l'ensemencer, on va y mettre des arbres, on la met en végétation, et après, on commence à en noyer une partie, de façon à recréer un écosystème. Ce sont des opérations qui sont relativement, entre guillemets, faciles à maîtriser. Le souci que l'on a pour le futur, c'est celui-là. Ce sont les sources de contaminants métalliques qui, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le temps, vont nous poser des problèmes. Donc là, c'était la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. On juge un petit commentaire de cette mine qui se trouve dans l'Ontario. Timmins, c'est probablement la mine la plus profonde, est actuellement la mine plutôt la plus profonde du monde. On est à un peu plus de 3 km de profondeur. Vu la position dans la Terre, c'est même en bas de la mine, c'est là où on est le plus proche du centre de la Terre, donc c'est une mine qui est vraiment extrêmement importante, qui a fonctionné pendant des dizaines d'années, et qui vient de fermer tout simplement parce que l'activité... Alors, ils viennent de fermer, pardon, l'usine de traitement, ils continuent l'activité minière, la mine va s'arrêter en 2025, c'est à peu près planifié, tout simplement parce qu'à la base, petit à petit, c'est en train de s'appauvrir, on est à la fin du gisement. Donc ça coûte de plus en plus cher parce que 3 km de profondeur, vous imaginez, pour descendre, ça prend un certain temps. Et donc le minerai est maintenant traité au Québec. Donc ce n'est plus rentable de le traiter sur place. Donc on est dans une fin d'exploitation et donc petit à petit, ça a été la première étape, ça a été de fermer l'usine de traitement et ça a été donc de réhabiliter donc ces épandages, ces énormes épandages associés donc à l'activité minière. Alors, pour introduire un certain nombre de termes, donc j'ai choisi la ville de Kalgoorlie, donc un énorme gisement de classe mondiale donc en Australie. Donc la mine s'est développée à proximité immédiate, là on n'a vraiment pas peur, vous voyez c'est 1 km, donc on est parfois à moins d'un kilomètre de l'exploitation, d'une exploitation qui est à ciel ouvert, qui est maintenant relayée par l'exploitation en profondeur sous forme de galerie. Et on voit d'une part donc les stériles, donc les roches qui ont été sorties pour permettre l'exploitation, et d'autre part, donc, les déchets de traitement, qui sont donc ces poudres qui concernent des épandages absolument considérables. Donc on va distinguer un certain nombre de résidus et de déchets associés à cette mine qui n'auront aucun rapport entre eux. Donc c'est pour ça que je vais juste en préciser un petit peu les termes, parce que rassurez-vous, on ne va pas du tout voir ça dans le détail. Mais donc, on a donc, d'une part pour mettre à nu le gisement, donc ce qu'on appelle la découverte. Donc on va avoir ces résidus de découverte, donc on va retirer tout ce qui est sol et tout ce qui est roche totalement identique. Donc on va dire que ce sont des, on les appelle du coup des stériles francs, ils sont absolument non reconnaissables de la roche environnante. Et infrastructure, ça veut dire qu'il vous faut des routes, il vous faut donc des accès et des parcs pour les engins. Donc tout ça, ça va faire des terrassements importants. Et on garde maintenant ces stériles francs à part, on ne les jette surtout pas, parce que lorsqu'on sera en fin de vie de carrière, ces stériles francs, on va les réutiliser, puisqu'ils viennent de là, justement, pour remettre en état l'exploitation. On a ensuite des stériles qu'on appelle de sélectivité, parce qu'ils sont trop dilués pour être traités. Mais vous voyez, j'ai pris une précaution de langage. Trop dilué, ça veut dire qu'ils contiennent du métal. C'est peut-être pas rentable, mais il y a du métal, ça peut être sur des quantités, encore une fois, faible concentration mais quantité considérable, donc pour nous c'est différent. Donc ce sont des résidus d'exploitation, ce sont en général des blocs qui sont souvent assez gros, donc la cinétique de relargage sera peut-être faible, mais elle existera. Ce qui nous cause le plus de soucis, ce sont les résidus de traitement, parce que pour traiter les minerais, on a broyé la roche, donc vous avez fait une poudre, parfois c'est quelques dizaines de microns, c'est de la farine pratiquement. Vous avez fait une poudre que vous avez traitée, par exemple, avec de l'acide sulfurique ou avec d'autres agents chimiques assez agressifs. Donc, vous avez un matériau qui est très fin, qui va donc, si vous l'épandez et qu'il sèche, eh bien, évidemment, le vent va disséminer la poussière. Ça, c'est des problèmes de contamination majeurs, notamment pour des métaux comme le plomb. L'inhalation de poussière au plomb est la cause majeure du saturnisme. Donc on est effectivement très, très soucieux de l'évolution de ces résidus de traitement, d'autant plus que le fait qu'ils aient été attaqués chimiquement fait qu'ils ont des interfaces, des surfaces qui sont très réactives. Donc ils vont pouvoir évoluer avec le temps, ils vont pouvoir impacter la santé, les écosystèmes au sens large, il n'y a pas que l'homme. Donc effectivement, on va les regarder de très près et c'est eux que l'on demandera de surveiller et de stabiliser sur la durée. Et enfin, les derniers traitements viennent de ce que l'on fait avec le minerai, c'est-à-dire du métal. Donc on va avoir des scories et des laitiers et on terminera justement le cours sur ce qui était autrefois des déchets qui sont maintenant devenus des matières primaires secondaires, et donc avec justement des problèmes à la fois juridiques et philosophiques qui se posent sur leur utilisation. Alors, on va avoir à gérer ces sources de contaminants métalliques. J'ai distingué trois types d'impacts. Les impacts à court terme, la catastrophe, la rupture, par exemple, d'une digue qui contient les déchets miniers et à ce moment-là la contamination d'une région. On va ensuite voir, enfin je mentionnerai donc les impacts historiques, mais Pierre Fluck qui fera la conférence ensuite, étant un spécialiste justement d'archéologie industrielle, nous en parlera de façon beaucoup plus détaillée, enfin beaucoup plus circonstanciée. Et enfin, je mentionnerai donc c'est pas une gestion, mais c'est l'observation à long terme. Là, on redevient géologue et on se dit tiens, il y a avec le temps, on connaît des anomalies géochimiques, on connaît justement des concentrations en métaux qui ont pu évoluer et stabiliser les métaux. Donc, pour commencer, donc, ces aspects catastrophiques, qu'est-ce que l'on fait en cas de catastrophe et comment est-ce qu'on peut remédier? Donc ça, c'est une des catastrophes qui a eu lieu donc, il y a une petite vingtaine d'années maintenant, donc, dans le sud de l'Espagne. Donc on se trouve à côté du Guadalquivir. Et donc la rupture de la digue, vous la voyez ici. Et donc vu la couleur de la rivière, même si vous n'êtes pas géochimiste, vous vous doutez qu'il y a eu quelque chose. Effectivement, les boues se sont entièrement répandues. Donc en aval, alors dans ces boues, il y avait de l'acide sulfurique, c'est déjà un point, mais il y avait surtout des métaux lourds qui étaient justement, étant en pH acide, étaient très très peu retenus, donc étaient libres et qui ont effectivement contaminé entièrement l'aval. Alors on est sur des volumes qui sont extrêmement importants. On est sur un site minier qui est historique, un Rio Tinto est exploité depuis l'âge romain, on en reparlera tout à l'heure, je vous montrerai une photo. C'est un site extrêmement classique qui a d'ailleurs donné son nom à une des plus grandes sociétés minières actuelles, Rio Tinto. Donc des boues et des eaux qui contiennent des métaux lourds et qui sont en pH acide. Et vous voyez qu'on se trouve donc sur des dizaines de kilomètres qui sont affectés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a effectivement eu. Alors, ce qui est en gris ici, ce sont les boues. Ce sont les boues rouges, les fameuses boues rouges donc de traitement, qui sont, donc ici c'est le zinc, l'arsenic, le cuivre, alors le fer, ça c'est évident, mais puisqu'elles sont rouges, ce sont les oxydes de fer. Et quand on regarde les sols contaminés, eh bien, on se rend compte que ces sols ont été effectivement contaminés avec ces métaux lourds, donc notamment pour l'arsenic et le zinc. L'arsenic est beaucoup plus problématique que le zinc, hein, c'est vraiment un cancérigène redoutable. Et enfin, donc les sols, pour vous donner le niveau géochimique, vous voyez que là, en revanche, vous ne pouvez pas incriminer le fait qu'il y avait déjà des contaminations importantes. On est quasiment dans l'épaisseur du trait ici. Donc, on a eu un effet très important sur l'environnement, mais l'originalité, ça a été que Rio Tinto, évidemment, s'est retrouvé. On est en Espagne, hein, on n'est pas loin. Donc, le gouvernement espagnol a demandé dès le lendemain que Rio Tinto fasse tout pour retirer le plus tôt possible. C'est-à-dire que l'essentiel du volume qui avait été évacué par cette rupture de digue soit évacué. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, ce qu'ils ont fait, ça a du coup amené des problèmes hydrologiques très importants, parce qu'évidemment, il a fallu faire tout ça dans le lit de la rivière, et ça a durablement modifié l'hydrologie de la région. Et ce que l'on a vu, effectivement, donc ça, c'est un point qui est assez positif, c'est le fait que la contamination, donc ici, il s'agit du mercure, qui est un très bon marqueur de contamination, passant dans la biomasse, eh bien on voit qu'effectivement, on a une tendance à la décroissance. Il n'y a pas trop de données plus récentes que ça. Donc, on a une tendance à la décroissance avec le temps. Donc, après avoir monté, donc ça se stabilise. Ce que l'on observe dans des pays à culture minière ancienne comme l'Europe occidentale, comme ceux de l'Europe occidentale, ce sont donc des exploitations qui sont historiques, des exploitations qui ont commencé il y a plusieurs siècles. Et il y a deux types de soucis. Le premier type de souci, c'est effectivement, est-ce qu'on pourrait re-exploiter ces gisements parce que les méthodes de traitement ont changé, donc on est effectivement peut-être mieux armé qu'il y a 100 ans ou 200 ans pour exploiter certains minerais. Le prix des métaux a parfois considérablement été modifié, donc des métaux qui n'étaient pas économiquement rentables à exploiter à l'époque, aux teneurs où on les a laissés, sont peut-être tout à fait rentables maintenant, donc ce sont peut-être devenus de véritables gisements secondaires. Le souci aussi, c'est évidemment la source de contamination. Donc, et puis la mise en sécurité, parce que très souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces mines vont être une source de danger en fait pour les visiteurs. Donc on est sur les deux aspects, recyclage, retraitement, donc des déchets, donc qui à la fois pour décontaminer et parfois pour retrouver de la ressource. Oui, bien. Excuse, petit problème technique. Donc, à long terme, ce que l'on connaît, c'est ce qu'on appelle des anomalies géochimiques, c'est-à-dire des endroits qui sont naturellement enrichis dans certains métaux lourds, qui étaient utilisés autrefois comme justement des très bons indices pour prospecter. Donc on faisait effectivement, du temps où on prospectait en France il y a 30-40 ans, il y avait eu une carte géochimique de la France, c'est-à-dire que des géologues, en général les géologues du BRGM étaient en charge de ça, donc faisaient des analyses systématiques, donc périodiques, sur l'espace, pour déterminer les concentrations de tous les métaux qui étaient intéressants économiquement. Ce que l'on s'en sert maintenant différemment, on s'en sert pour dire que c'est intéressant si on a des concentrations qui sont élevées parce que ça veut dire que le métal ne s'est pas dispersé. Il est quand même resté relativement localisé dans cette région. Ça veut donc dire qu'on a un porteur du métal qui est relativement stable. Donc ça va peut-être nous donner des idées pour enfermer, entre guillemets, ces métaux qui peuvent être dangereux et impactants pour la biosphère. On pourra trouver comme ça des matrices qui vont durer donc après cette validation géologique. Donc là, on est en Ardèche, on est dans la région de l'Argentière. sur des grès du Trias, donc on est au début du secondaire, avec des sols qui se sont développés et des concentrations qui sont quand même tout à fait spectaculaires. On est à 0,1-0,2% donc dans la partie supérieure de ces sols. Donc ça aussi, c'est pour dire que le zéro concentration de polluants, ça n'existe pas. Donc là, ça fait des siècles, voire plus, que les gens habitent avec des concentrations qui semblent effectivement être extrêmement élevées. Et donc, on ne se trouve pas avec des problèmes spécifiques de santé. Donc, c'est peut-être lié au fait que le plomb ne se trouve pas totalement accessible. Et effectivement, c'est ce qui a été montré. On s'est d'abord rendu compte que lorsqu'on faisait la distribution, par exemple, donc, du plomb sur des échantillons, donc on a ici un grès qui est en train de s'altérer, donc on a cette zone sombre qui correspond à des oxydes de fer et de manganèse, et bien on voit que le plomb est associé essentiellement au manganèse, donc ici c'est la distribution, la carte de répartition du manganèse et la carte de répartition du plomb, elles sont très voisines, alors qu'en revanche le fer, on le trouve dans beaucoup d'endroits, et il n'y a pas de manganèse, donc effectivement, il n'y a pas de plomb. Donc on a effectivement pu, grâce à ça, déterminer que les oxydes de manganèse piégeaient sélectivement le plomb, donc ça c'est effectivement une bonne nouvelle, et que le plomb se trouvait par ailleurs piégé dans des phosphates. Alors si vous laissez évidemment, je n'ai pas du tout parlé de la formule qui est un peu complexe, ce qu'il faut retenir c'est que ce sont des phosphates qui sont très très peu solubles, comme pratiquement tous les phosphates de plomb. Et ça c'est intéressant parce qu'on retarde ainsi donc, la dispersion du plomb dans l'environnement. Et c'est un point qui est donc très, très important donc pour nous expliquer pourquoi, sur des durées géologiques, on a pu garder de telles concentrations dans le profil d'altération, donc dans les sols de cette région de l'Argentière. Alors, un cycle que l'on a très souvent avec les déchets miniers, c'est celui-là. C'est la génération d'eau de ruissellement qui sont extrêmement colorées et qui s'accompagnent de pH très relativement faible des rivières. On a des pH qui peuvent être à 3, 2,5, 3, 3,5. Donc on est vraiment sur des pH qui sont très très faibles. Ça, c'est le Rio Tinto, justement. Donc même si vous n'avez pas fait l'espagnol, vous savez que ça veut dire une rivière colorée. Et donc on retrouve Rio Tinto dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces drainages mini-acides, ils vont effectivement être le danger majeur que l'on retrouve dans le monde entier autour de ces zones où on stocke les déchets. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails. On part de sulfure. Ce sont ces sulfures qui n'ont pas été, pour des raisons variées, les traces de sulfure qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas pu être récupérées lors du traitement du minerai. Donc, il en reste sur place et ces sulfures vont s'oxyder. Alors, ils vont s'oxyder parce qu'on est en atmosphère oxydante, c'est vrai, mais ils vont être fortement aidés. Donc, ça, c'est des aspects qui ont été bien mis en évidence il y a à peu près une vingtaine d'années, donc par les activités microbiologiques. On a des bactéries qui vont justement vivre et donc tirer leur énergie de cette oxydation donc des sulfures en sulfate qui vont accélérer leur cinétique et faire qu'au lieu de se passer sur une durée très longue, eh bien, un drainage mini-acide peut être observé au bout de quelques années après que l'on ait démarré donc, le stockage de ce déchet minier. Donc on va, à partir de sulfure, faire des sulfates. Ces sulfates de fer vont évoluer et vont nous donner donc des oxydes de fer, donc là aussi je vais très vite, c'est pas trop le problème, ces oxydes de fer que l'on voit visuellement, ce sont ces rivières rouges qui vont suinter à partir de tous ces déchets miniers, et ça on a ça dans le monde entier, de l'Arctique jusqu'à l'Équateur. Alors, on va être amené avec ces mines générant des contaminations en métaux lourds, on va être amené à des actions de réhabilitation qui vont être un peu plus complexes, voire même beaucoup plus complexes que ce que l'on a vu tout à l'heure pour les carrières. Alors, la plupart des choses qui sont ici sont, on pourrait le trouver aussi pour des matériaux minéraux, donc pour des exploitations qui n'ont pas d'impact environnemental en termes chimiques. En revanche, c'est cette partie remédiation qui fait l'originalité par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc le reste, je n'en parle pas plus. Alors ces métaux lourds, en effet, dans les sols, on ne va pas les trouver n'importe où. On va les trouver, souvent donc en fonction de leur mobilité. On va les trouver dans des minéraux, donc sous forme de précipités, comme traces dans certains autres minéraux. Lorsqu'ils sont très mobiles, eh bien, ils vont partir, effectivement, donc souvent complexés, ils vont partir dans les solutions, donc ils vont partir sur les rivières. Et c'est lorsqu'on se trouve un peu entre les deux, c'est-à-dire ni bloqué dans les structures minérales, ni emporté par les rivières, que s'il y a un problème. Il y a un problème parce que vous allez les voir incorporés dans la chaîne alimentaire, en fait, dans la biosphère. Et c'est là où on va pouvoir retrouver des concentrations parfois extrêmement élevées de ces métaux lourds. Alors quand je dis métaux lourds, c'est au sens... C'est pas au sens chimique, en fait. Hein. J'inclus dans les métaux lourds les métalloïdes lourds, comme l'arsenic, comme le sélénium. Donc l'arsenic, notamment, qui est un sujet de préoccupation majeure, notamment en France, où on a des contaminations très importantes dans un grand nombre de mines qui contenaient un petit peu d'arsenic. Alors pour ça, il va falloir traiter. Donc là aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne rentre absolument pas dans les détails, c'est juste pour vous présenter très brièvement quelques principes et puis quelques clés pour avancer, parce qu'en fait, on se rend compte que là, on rentre dans un secteur qui est très science de l'ingénieur, mais qui est nécessaire, parce que ces déchets, on ne peut pas se contenter de les observer. Il va falloir qu'on les stabilise, il va falloir qu'éventuellement, on puisse retirer les métaux lourds qui y sont contenus, et en tout cas, il va falloir empêcher qu'ils impactent de façon négative l'activité humaine et la biosphère au sens large. Donc, le traitement le plus extrême, ça va être de lessiver, de traiter chimiquement ces sols. Donc, on va extraire effectivement ces sols, ensuite ces déchets miniers. Donc, on va ensuite les séparer en tas, les mettre dans de grandes cuves où on va utiliser, selon les cas, soit des acides, soit des bases, soit des solvants organiques, soit des agents complexants, selon les métaux qu'il faut retirer. Et ensuite, on obtient donc une substance dans laquelle il y a une concentration beaucoup plus faible de ces métaux. Alors, une façon effectivement efficace, c'est de jouer avec le pH. Le pH va effectivement nous permettre de désorber, par exemple, en pH acide, on va désorber les cations. Vous voyez, donc ici, ce sont essentiels, ce ne sont que des cations. Nickel, cobalt, zinc, plomb divalent, cuivre divalent. Et on voit qu'on arrive effectivement à zéro lorsqu'on se retrouve dans des conditions de pH acide. Donc là, ce n'est pas très compliqué pour les sortir. Et au contraire, en pH basique, on va se retrouver avec les métaux qui seront entièrement absorbés à la surface, donc des phases. Donc ce que l'on veut, c'est changer le pH pour sortir justement ces métaux du déchet contaminé. À l'inverse, si c'est de l'arsenic qu'il faut retirer, on va au contraire augmenter le pH. Les anions comme les arséniates et arsénites montrent exactement le comportement opposé. Alors ça, c'est ce que l'on fait, par exemple, pour traiter les eaux qui vont ressortir des anciennes mines, parce que les anciennes mines, lorsque vous arrêtez l'exploitation, la première chose que vous faites, parce que ça coûte vraiment très cher, vous allez éteindre toutes les pompes s'arrêtent, petit à petit, la mine va s'en noyer. La mine, parce que la nappe phréatique va retrouver son niveau original, vous n'avez plus de nécessité de la mettre hors d'eau. Alors l'aspect positif, c'est qu'on va quitter une ambiance oxydante, donc petit à petit, on va retrouver une ambiance réductrice pour beaucoup de métaux, ça va permettre de les stabiliser. L'aspect négatif, c'est que ces eaux vont ensuite sortir de la mine, et lorsque vous voyez donc des eaux, ce qu'on appelle des eaux d'exor, donc ces eaux qui sortent des mines, vous voyez la couleur de ces eaux, ce n'est pas uniquement de l'eau, vous voyez qu'il y a encore autre chose qui se trouve dedans, et c'est en permanence, évidemment, et ce sont des volumes qui sont parfois extrêmement conséquents. Donc on ne peut plus les laisser, c'est ce qu'on faisait autrefois, là aussi on ne laisse plus les choses en l'état, parce qu'effectivement on peut contaminer, et on a contaminé de façon significative un certain nombre d'hydrosystèmes. Donc ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on va notamment, par exemple, jouer sur le pH tout de suite, donc on le fait avec de la chaux. Donc la chaux, en tant que base, va nous augmenter le pH, et effectivement on revient donc au schéma ici, où on était avec un pH acide, et donc tous ces ions se trouvaient libres et donc pouvaient ensuite passer, donc solubles, pouvaient passer dans les écosystèmes. On augmente le pH, on va se retrouver ici, on fait précipiter des oxydes de fer qui se trouvent naturellement, puisque vous voyez ici la couleur, la couleur brune de ces oxydes de fer est tout à fait caractéristique. Et donc, en se précipitant, les oxydes de fer vont piéger ces métaux lourds. On va les faire floculer pour bien les garder bien agrégés, et donc on va avoir, on va obtenir des boues rouges qui sont, elles, des déchets, évidemment, mais on préfère gérer un déchet solide qu'un déchet liquide, alors on aurait de quoi remplir beaucoup de piscines avec ça. Alors, suite à ce que l'on a vu tout à l'heure sur justement le fait que les phosphates de plomb sont insolubles, il y a eu l'idée, et il continue à avoir l'idée, de dire on n'est peut-être pas obligé de prendre, un endroit contaminé pour, par exemple, des déchets de traitement minier, les traiter, retirer les sols, retirer les métaux lourds. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire, écoutez, le métal lié, ce que je veux, c'est qu'il ne bouge pas. Et donc, on va essayer de fabriquer des phosphates de plomb. Ces phosphates de plomb sont des phosphates qui sont extrêmement peu solubles, et c'est effectivement ce que l'on observe. Vous voyez donc ici des comparaisons entre les extractions donc de sol. Donc là, il s'agit j'insiste, ce ne sont pas des sols, ce sont des déchets de traitement. Vous voyez l'énorme différence qui existe entre les sols qui ont été laissés tels quels, les sols qui ont été traités avec des phosphates. Ce sont des extractions sélectives, c'est-à-dire qu'on applique ce traitement, puis ensuite celui-là. Donc on fait des échanges d'ions, on fait des actions avec des carbonates et différents agents chimiques, et à la fin, on se retrouve avec un plomb, entre guillemets, résiduel, c'est un peu réfractaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été attaqué. Et lorsqu'il y a des phosphates, effectivement, lorsqu'il a été traité au phosphate, eh bien, on se retrouve avec un stock de plomb après ces différentes extractions chimiques, qui est beaucoup plus important que dans le sol de départ. Et ça, c'est effectivement associé au fait qu'en quelques mois, donc on est sur des périodes de 6 mois, on a effectivement former des phosphates de plomb qui commencent à nous immobiliser le plomb. Donc l'idée, c'est de dire, à ce moment-là, on va pouvoir, soit avec des plantes, soit donc des plantes qui vont développer des nodules avec des phosphates, soit avec des abondements phosphatés, donc en arrosant régulièrement avec des phosphates, on va pouvoir, grâce à ça, limiter de façon considérable donc l'entrée de ces métaux lourds dans les végétaux, comme vous le voyez ici. On a une chute considérable du plomb dans les plantes dès qu'on a commencé les traitements, donc surtout avec cela. Donc ils ne sont pas tous aussi efficaces. Et donc c'est une façon donc de stabiliser. Donc on n'a pas changé la concentration, mais on a changé la stabilité du métal dans le sol. Une autre méthode, qui est une méthode plutôt physique, ça va être d'utiliser un champ électrique. Donc ce sont des méthodes électrocinétiques où on va effectivement sur des... Donc là, c'est bon, bien adapté pour les endroits où on va avoir des épandages de déchets de traitement minier. On a suffisamment d'eau, donc ça marche très bien à partir de 20% d'humidité, donc ça colle très très bien. Et on va donc avoir, selon qu'on se trouve à l'anode ou à la cathode, eh bien on va pouvoir attirer soit les cations ici, soit les anions, et donc il faudrait rajouter ici par exemple les arséniates qui vont aller de l'autre côté. Ce sont des électrodes qui sont poreuses. Vous allez faire circuler donc des solutions que vous allez évidemment traiter pour en retirer donc les métaux lourds et les métalloïdes lourds qui se trouvent dedans. Et donc c'est une façon assez efficace et rapide pour retirer donc les métaux lourds de ces environnements. Alors attention, on ne peut retirer que les métaux lourds qui sont disponibles, c'est-à-dire qui sont mobilisables. Ceux qui sont piégés donc dans les phases, évidemment, ils ne peuvent pas être mobilisés. Donc il y a un certain nombre d'autres méthodes alternatives. Là, je ne vais pas avoir trop le temps de les détailler. Donc il peut y avoir les nanotechnologies, les biotechnologies, donc on a les bioremédiations. Là, je n'aurai pas trop le temps de détailler tout ça. Ce sont des méthodes qui sont à l'étude. Pour l'instant, elles ne sont pas opérantes, donc je n'en parle pas plus. Les autres méthodes ont été développées en Australie ou en Amérique du Nord notamment. Alors, le deuxième volet donc, de l'exposé concerne le recyclage. Il va se prolonger la semaine prochaine avec la réflexion sur les métaux critiques, justement, parce que ça nous posera la question. Ces métaux critiques, on en a besoin pour les nouvelles technologies, mais comme on ne peut pas tout le temps les extraire de ressources primaires, comment est-ce que l'on peut récupérer donc, ces métaux au travers de l'existant, de ce qui existe déjà comme matériaux. Alors, le recyclage, on a effectivement une obligation donc, de recycler au maximum les déchets, c'est-à-dire que les déchets ne sont plus des déchets ultimes. On va essayer de boucler, d'avoir une économie cyclique pour réutiliser ces déchets et les remettre donc, dans un circuit de production. Donc, l'objectif 2020, donc le grand objectif européen, inclut notamment un volet sur le recyclage, sur des taux de recyclage qui sont extrêmement important, donc pour notamment par exemple les déchets ménagers, donc à plus de 50%, et 70% pour la construction. Donc ça justement, ce sera un des points, ces points seront traités au colloque de début juin, avec justement un exposé spécifique sur les nouvelles méthodes de déconstruction et comment justement l'industrie du BTP travaille de plus en plus avec des matériaux recyclés sur l'ensemble du panel qu'ils ont à gérer. Et donc pour ça, eh bien, il faudra impliquer l'ensemble du circuit de production, parce qu'on verra dans un instant qu'effectivement, on ne peut pas le gérer si on travaille en aval. Il faut travailler depuis la conception du produit pour pouvoir le réutiliser. Et donc ce qu'aime bien faire l'Union européenne, donc c'est de montrer des schémas qui sont simples et qui montrent une morale respectueuse. Donc rouge, évidemment, c'est très mauvais. Donc c'est simplement je retraite et puis je stocke quelque part sans rien faire. Donc, et ce qui est vert foncé ici, c'est la prévention, donc on a tout prévu. Et puis entre les deux, eh bien, on va avoir donc notamment le recyclage. Bon, ça, c'est la récupération d'énergie, ça ne nous concerne pas beaucoup, parce que bon, c'est surtout pour les déchets organiques. Le recyclage, oui, ça nous concerne. Et évidemment, la réutilisation, c'est encore mieux lorsque ça s'y prête, c'est-à-dire notamment pour les matériaux minéraux. Alors, une boucle souvent ouverte pour le recyclage, donc ça, on reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, cette notion de boucle, c'est que on veut effectivement, au fur et à mesure que l'on fabrique, donc ça, ce sont les matières brutes, hein, à partir des minerais, donc ça, c'est voici justement nos minerais, les matériaux bruts que vous faites, donc les blocs de cuivre, de fonte ou d'acier que vous fabriquez, et ensuite le produit que vous fabriquez. Ce produit, pour faire ce produit, vous allez effectivement avoir un nombre de rebuts très important. Ce sont les déchets qui sont depuis longtemps les plus appréciés parce qu'ils ont une qualité constante, ils sont très maîtrisés technologiquement, et donc ils vont effectivement, cette boucle est très facile à boucler. Ce n'est pas des quantités considérables, mais elle existe. Alors ensuite, à partir du produit, vous en faites le produit fini qui est prêt à l'usage, et lorsque vous ne l'utilisez plus, vous allez le jeter, et donc on est en fin de vie, et cette fin de vie, eh bien, c'est là où il y a justement cette très, très longue boucle qui revient, et c'est cette très longue boucle qui, pour l'instant, pose des problèmes, parce que en général, cette boucle n'existe pas. Alors voilà l'un des problèmes classiques sur, par exemple, un téléphone, les métaux qui sont justement les métaux critiques dont on parlera la prochaine fois, les métaux, vous allez les trouver un petit peu partout. Il est évident que si vous mettez ce téléphone dans un four industriel pour récupérer l'yttrium ou le cérium, vous n'obtiendrez rien du tout parce que ces métaux se trouvent dans des positions extrêmement spécifiques, sur des quantités globales qui sont très faibles. C'est-à-dire qu'il faut effectivement non pas retraiter l'objet, mais il faudrait pouvoir le déconstruire pour avoir accès aux endroits où les métaux sont impliqués. Donc c'est en fait toute une révolution dans la fabrication, toute une révolution pour pouvoir avoir accès à ces ressources secondaires. Et donc c'est ça qui explique que dans beaucoup de cas, les taux de recyclage sont très faibles. On a des taux de recyclage, alors ici ce sont des taux de recyclage supérieurs à 50%, tout ce qui est bleu. Alors tout ce qui est bleu, c'est lié au fait que soit on se trouve dans les métaux de base, et les métaux de base concernent des quantités qui sont vraiment très importantes et qui vont donc être plus faciles à gérer. C'est plus facile à gérer un immeuble quand on le déconstruit que des millions de téléphones portables, même si c'est le même poids. Et à l'inverse, on a effectivement, toujours dans le bleu, on va retrouver les éléments chimiques sur lesquels tout le monde se fait pas du souci, mais sait que c'est rentable, c'est-à-dire les métaux précieux. Donc là, effectivement, la récupération des platinoïdes, la récupération de l'or ou de l'argent, ce sont des éléments chimiques que l'on souhaite récupérer vu le prix qu'ils coûtent. Et donc, on a effectivement des taux de récupération qui sont tout à fait honorables. Et alors, de l'autre côté, eh bien, on a des taux de récupération qui sont ridicules, à moins de 1%. C'est par exemple l'ensemble des lanthanides, hein, donc l'ensemble des terres rares, avec scandium et yttrium, tout simplement parce qu'ils sont à chaque fois utilisés en petite concentration dans de tout petits, dans des matériaux qui ont des objets plutôt, qui sont faits avec des matériaux de très petite taille. Donc on a effectivement la double pénalité de faible concentration et de faible volume. Donc on a des taux de récupération qui sont très faibles. C'est ennuyeux parce que c'est justement ces méthodes de haute technologie qui ont permis toutes les applications que montrait le schéma précédent, c'est-à-dire à la fois de l'affichage sur des surfaces réduites, de la communication vocale et de la transmission d'ondes. Donc on se trouve effectivement devant ces nouveaux types de gisements, donc de matières premières secondaires, qui sont beaucoup plus difficiles évidemment à appréhender que les matières premières, parce que comme vous voyez, il faut effectivement être au niveau d'une éco-conception, donc de la conception de l'objet qui est en train de se faire. Alors ce qui est intéressant, comme à chaque fois, on l'a vu pratiquement à chaque cours, c'est l'occasion de réfléchir sur des aspects de la vie, sur des aspects de l'économie qui n'ont parfois même aucun rapport à voir avec les matières premières minérales, mais on se trouve dans les mêmes concepts. Donc c'est intéressant de voir les contributions donc des matières premières vraiment primaires, donc celles que l'on a fabriquées exprès, et par rapport à ce qui est recyclé. Et donc en sachant que dans certains cas, on va être obligé donc de les importer parce qu'on n'en aura pas assez. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple de réaliser que les plastiques se font essentiellement à partir de matières premières primaires, c'est-à-dire que le recyclage du plastique est effectivement extrêmement limité, tout simplement la qualité du plastique. Vous savez que les matières plastiques sont extrêmement variées et que donc on ne peut évidemment pas travailler avec des matières plastiques qui sont mélangées. Donc le verre, en revanche, on voit que le pourcentage donc de verre recyclé devient de plus en plus important. Ce qui change ici, c'est le bleu, c'est-à-dire donc le verre fabriqué à partir donc des constituants donc de silice, de chaux et de soude. Et donc ensuite, on voit sur les métaux non ferreux ou ferreux, on voit que les matières premières continuent encore à concerner la majorité. On est dans une situation qui sont relativement stable, c'est-à-dire que les modulations de production totale, en fait, c'est la matière première, primaire, qui l'assume. C'est-à-dire que le recyclage est une activité qui est suffisamment lourde pour ne pas être ajustable. Donc on va ajuster la demande de métal premier, en fait, à partir donc de la mine. Et tout ça qui explique effectivement la stabilité de ces recyclages. Donc ça, c'est le cas par exemple du cuivre. Donc on se trouve alors en cuivre qui est réellement remis, parce qu'il y a évidemment des pertes en ligne, qui est réellement remis dans le circuit de production. Vous voyez qu'on se trouve dans les 35% à peu près, et sur des valeurs qui sont à peu près constantes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis 100 ans, on a une quantité de cuivre, donc là c'est une échelle en millions de tonnes par an, on se trouve sur une courbe de consommation en cuivre qui est vraiment extrêmement contrastée, puisqu'on en est à se dire qu'on est en train d'aller tellement vite qu'on va voir un jour un pic et on aura passé le fameux pic du cuivre. Pour l'instant, on ne l'a pas encore observé. Mais la production a beau énormément augmenter, le recyclage s'adapte pour en gros rester à 35-36%. Donc on a cette efficacité des recyclages qui continue. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ça pour d'autres métaux, par exemple l'aluminium. Alors l'aluminium, c'est effectivement, pourquoi est-ce qu'on se fait du souci pour l'aluminium? C'est à cause de l'énorme différence entre le coût pour fabriquer 1 kg donc d'aluminium par le procédé Héroux, donc 260 mégajoules, alors que simplement récupérer l'aluminium et ensuite le fondre, ça ne consomme qu'une dizaine de mégajoules. Donc vous voyez, la différence est absolument considérable. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir donc le taux de recyclage effectivement de l'aluminium. Donc on le voit effectivement que lorsque vous optimisez la façon dont vous construisez les objets, par exemple les véhicules, eh bien c'est plus simple à négocier donc une déconstruction de véhicules que d'autres objets. Eh bien vous voyez que pour l'industrie automobile, on a une efficacité de recyclage qui devient de plus en plus importante, et même par rapport donc au reste des utilisations de l'aluminium. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est pour ça que j'ai mis ces trois graphes, c'est-à-dire la quantité d'aluminium actuellement utilisée, la production d'aluminium et donc le recyclage de l'aluminium. Vous voyez qu'on perd un ordre de grandeur à la louche, en allant du recyclé à la consommation et de la consommation donc au stock total. Donc ce n'est qu'une petite contribution, mais bon, c'est un effort qui est absolument considérable, cette pente le montre tout à fait. Et à ce moment-là, vers où on va ? On va vers le fait que, pas encore, mais bientôt, on va avoir un croisement des courbes qui sont la production d'aluminium à partir du minerai et la production d'aluminium recyclé. Et tout ça étant dans une quantité d'aluminium qui est de plus en plus importante. Là aussi, on est sur des facteurs de croissance qui sont vraiment très importants. Et donc, le fait que le Conseil international des mines et de la métallurgie définit maintenant la production de métal à partir des mines comme simplement devant venir en complément de ce qui n'a pas pu être recyclé. Donc avec le recyclage, on a un certain stock de métal il nous en manque, et bien à ce moment-là, on va chercher le minerai. Mais donc des efficacités donc de traitement, de recyclage plutôt entre les métaux qui est assez contrasté, le plomb étant de loin celui qui est le mieux recyclé, en partie, alors c'est évidemment parce que c'est celui sur lequel on se fait beaucoup de soucis, mais c'est aussi parce que c'est essentiellement à travers des batteries, et donc le circuit de récupération est relativement simple. Donc on a des déchets qui vont être remis dans le circuit, et à ce moment-là, donc ces déchets donc en production, en post-consommation, eh bien on a effectivement un petit souci, parce que est-ce que c'est un déchet, est-ce que c'est un produit ? Les taxations, enfin, beaucoup de choses se trouvent effectivement changées totalement si vous voyez que c'est un déchet ou si vous vous en servez donc pour fabriquer des objets. On est sur une tendance qui est stagnante, c'est-à-dire que l'on a augmenté ces matières premières de recyclage. Alors on dit maintenant matières premières de recyclage et non plus matières premières secondaires, ça fait moins négatif, ça fait moins péjoratif, donc ça fait mieux de dire matières premières de recyclage. Donc ces matières premières de recyclage, MPR ici, ont augmenté effectivement en 20 ans, vous voyez, on a augmenté, mais on est stabilisé donc depuis quelques années. Et donc là, c'est effectivement ce que j'avais mentionné au début, c'est-à-dire le fait qu'on regarde sur un certain nombre d'anciennes mines, notamment en France, mais en Europe occidentale en général, on regarde à réutiliser les déchets miniers pour pouvoir ressortir les métaux qui économiquement pourraient être utilisés. Bon, je vais terminer, donc l'heure avançant, je vais terminer avec le dernier concept que je voulais introduire, c'est-à-dire que l'on a vu donc la réhabilitation donc des sites miniers, donc avec notamment le souci sur les résidus donc de cette industrie minière. On a parlé du recyclage et il y a une autre niche en fait dans laquelle qui devient de plus en plus importante, c'est la notion de coproduit. La notion qu'on appelle sous-produit. Alors sous-produit, c'est lorsque vous ne faites pas de bénéfice, vous produisez quelque chose, bon, c'est comme ça, mais vous n'en faites pas beaucoup de bénéfices, mais petit à petit, les sous-produits deviennent de moins en moins importants. On va valoriser tout ce qui est produit, et donc ça devient un coproduit. Un exemple de coproduit, c'est le laitier. Alors ce sont, comme je l'ai mis ici, ce sont des matériaux qui ont des propriétés qui sont originales, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement, bah, tiens, on va utiliser ce produit parce qu'il n'est pas cher, c'est vrai qu'il faut d'abord qu'il ne soit pas cher, mais c'est aussi parce qu'il a une propriété, il remplit une fonction qui n'était pas vraiment remplie avant. Et donc un excellent exemple pour ça, ce sont les laitiers. Donc là aussi, je vais juste montrer trois transparents. Là aussi, c'est un domaine qui est très important et qui sera traité. Donc il y aura un exposé dessus au colloque de juin. Alors ces laitiers, on les a notamment dans les hauts fourneaux. On va les avoir aussi sur les fours de conversion lorsque vous faites de l'acier. À chaque fois, c'est quelque chose qui est très simple à imaginer. Donc vous avez votre minerai que vous enfournez, donc ce sont des fours en continu, vous enfournez le minerai avec le coq, et vous allez avoir la température qui va progressivement augmenter jusqu'à arriver à la fusion. Et donc on va avoir la fusion qui se passe ici, avec donc le silicate fondu qui est ici, et donc le métal fondu qui est en bas. Et une différence de densité, c'est exactement comme pour la Terre et les autres planètes. Hein. Donc vous allez séparer sans aucun problème le métal du silicate fondu. Et vous allez pouvoir soutirer donc le four avec d'une part le métal, qui était la fonction principale du four, et puis ces silicates fondus qui étaient avant rejetés. Donc c'était des scories de haut fourneau que l'on jetait, que l'on laissait à l'écart. Et qui sont formés à la fois de la gangue du minerai, parce que le minerai, un minerai de fer, disons, elle est à peu près à 50%, donc vous allez avoir donc une quantité 50-60% peut-être de gangue qui va être importante, et puis un petit peu de cendre du coq. Donc vous voyez que pour une tonne, vous pouvez monter jusqu'à 350 kg de laitier, des quantités donc, qui sont importantes et qui avant faisaient d'immenses stériles à proximité donc des grandes centrales sidérurgiques. Maintenant, ce n'est plus un déchet, c'est une matière première. Donc on s'est rendu compte qu'en fait c'était un silicate calcique, et donc on l'a fait réagir avec de l'eau. Il réagit très bien avec de l'eau, donc il remplit exactement la fonction du clinker lorsque vous fabriquez un ciment et que vous allez réduire en poudre, eh bien c'est un silicate calcique aussi. Il remplit cette fonction. Alors il y a simplement qu'on ne veut pas trop de fer, et surtout on ne veut pas de chrome. On ne veut pas de chrome, le chrome 6, le chromate, est un ion qui est soluble et qui est c'est aussi un agent cancérigène redoutable, donc il y a évidemment une réglementation assez stricte là-dessus. Alors ce laitier, ce silicate fondu, il va s'écouler donc à la sortie donc du four. Donc vous voyez, on est ici, hein, slag out, donc il est en train de sortir. Vous le voyez couler ici, on est presque comme si on était sur un volcan de type hawaïen. Hein, vous avez la lave qui coule et qui va in fine soit être répandue à l'extérieur. Donc là, le refroidissement n'est pas très très rapide. Ça va vous donner donc un laitier qui va être cristallisé. Et ce laitier, ben, ça, il va avoir la fonction d'une roche cohérente et résistante mécaniquement. On va s'en servir notamment comme ballast pour les chemins de fer. Et au contraire, lorsque vous dites ben, « je voudrais m'en servir, je voudrais vraiment avoir un matériau qui est très réactif, un verre est beaucoup plus réactif qu'un minéral, qu'un cristal qui est stable », donc on va le vitrifier soit comme ici en le pulvérisant, soit en le faisant granuler dans de l'eau, et là donc on aura ces laitiers vitreux qui sont utilisés donc, dans les ciments. Et évidemment, donc c'est là-dessus que je terminerai, du coup, est-ce que c'est un déchet, est-ce que c'est une ressource? Il y a des discussions disons sportive, entre les deux secteurs, donc le secteur de la sidérurgie qui évidemment pour lequel donc il vend ce produit au secteur des cimentiers, c'est de savoir qui c'est qui prend en charge, qui va payer l'empreinte carbone. Si c'est un déchet, si c'est une ressource, donc est-ce que le cimentier va avoir à payer l'empreinte carbone puisqu'il s'en sert comme ressource, il va avoir à payer l'empreinte carbone qui vient de l'énergie qui était nécessaire pour fondre, hein, vous voyez 1700 degrés, ce sont des températures vraiment très élevées, donc on a des dégagements de CO2 absolument considérables sur ces activités sidérurgiques, donc ces empreintes carbone sont très importantes. Est-ce que vous mettez l'empreinte carbone chez le cimentier, est-ce que vous le mettez chez les sidérurgistes, le sidérurgiste le vend au cimentier, donc voilà, donc c'est une discussion qui semble être un petit peu vaine, mais vous voyez la différence d'empreinte carbone entre un ciment et un ciment standard, Portland, hein, fait avec du clinker, donc vous prenez un carbonate et puis de la silice, vous faites les ciments auxquels on est habitué, et vous voyez ici un ciment fait à partir de ces laitiers, vous voyez que l'empreinte carbone est extrêmement différente, évidemment vous avez ces fameux ciments verts, et donc ce sont des arguments qui sont très importants. Donc voilà, donc on se retrouve avec des problèmes, alors ce ne sont pas nos problèmes à nous, mais ce sont les problèmes de nos industriels qui justement ont avancé là-dessus. Voilà, donc j'avais juste deux transparents. Donc l'un pour vous dire qu'à la sortie de la salle, sur la table, donc il y a un prospectus sur ce que l'on fera le lundi 13 après-midi, donc la démonstration de minéraux dans le Grand Amphi et Marguerite de Navarre, hein, ça se passera. Et puis le dernier transparent, donc le séminaire va être fait par Pierre Fluck, qui est le spécialiste français d'archéologie industrielle. Donc ça va être des aspects de sciences humaines, de sciences sociales, de vision historique. Tous ces aspects justement que j'ai un petit peu évoqués, on en a besoin. Et ça, ce transparent vient du fait que c'est très rare qu'un minéral soit dédié à une personne qui soit encore en vie, justement, donc fluckite. La fluckite est un superbe arséniate de manganèse. Vous voyez, manganèse divalent qui lui donne cette couleur rose qui est superbe, qui a été trouvée, donc celle-là a été trouvée à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est un endroit que Pierre Fluck connaît très bien depuis pas mal de temps, mais que l'on trouve notamment aussi à Salsigne, dans la mine de Salsigne. Voilà, je vous remercie, et donc on va écouter donc Pierre Fluck nous faire son séminaire.